Voilà, ouvrons le Saint-Livre dans le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Voilà, nous voyons dans ce psaume l'œuvre merveilleuse que Dieu fait dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui. L'expérience que Dieu veut cet après-midi, aujourd'hui, te donner de pouvoir faire en t'approchant de lui. Voyons dans ce psaume, nous avons lu que « Qui est semblable à l'Éternel ? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » Et encore aujourd'hui, Dieu a ses regards sur la terre. Et Dieu nous voit, Dieu connaît chacun de nous, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton cœur. Et il sait toutes choses. Il a ses regards sur la terre. Encore aujourd'hui, un autre verset dans la Bible nous dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui ». Et une autre version du même verset dit que Dieu a étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est à sa recherche. Ou une autre version dit, ou tourner vers lui sans partage. Dieu voit ton cœur cet après-midi. Et Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit si ton cœur est tourné vers lui sans partage, comme nous le voyons dans ce verset. Si ton cœur est vrai, si ton cœur est sincère, si ton cœur est à sa recherche, Dieu le voit. Et si c'est le cas, attends-toi à recevoir la grâce de Dieu, son aide, son secours, la délivrance. Parce que c'est ce qu'il fait. Il étend ses regards pour agir, pour soutenir. Et cet après-midi, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Voyons par la suite dans ce psaume que nous avons lu, qu'il nous est décrit l'action que Dieu fait dans la vie donc de ceux qui se tournent vers lui. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Et c'est vraiment la description parfaite de tous ceux qui ont accepter la grâce de Dieu dans leur vie, de tout ce qui ont réalisé l'œuvre de Jésus-Christ, de tout ce qui ont réalisé l'œuvre de Dieu pour eux, à la croix. C'est vraiment l'une des plus parfaites descriptions quand on a fait cette expérience. Et cet après-midi, on pourrait être plusieurs à passer, et on pourrait passer l'heure à témoigner de cette réalité, combien le Seigneur est venu nous chercher lui-même dans notre misère, là où nous étions, dans notre péché, dans les situations dans lesquelles nous étions, différentes les uns des autres, mais dans les situations tellement basses, il est celui qui retire le pauvre de la poussière, du fumier, il relève l'indigent. Et c'est vraiment, encore cet après-midi, je le répète, l'expérience qui veut te donner de pouvoir faire en t'approchant de lui. Et plus que donc d'être retiré de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas à sa gloire, du péché, pour tout résumer en un seul mot, parce que c'est tout cela qui nous amène dans la misère, plus que cela, il veut nous faire asseoir. Ce verset, ce psaume nous dit « pour les faire asseoir avec les grands de son peuple ». Là, ce que Dieu nous montre par là, c'est qu'il veut nous donner de pouvoir être assis dans un lieu où on ne pourrait même pas s'imaginer, d'être assis devant lui, d'être assis à sa table, dans sa présence. C'est la merveilleuse image que Dieu nous donne au travers de toute sa parole. C'est ce à quoi il nous appelle. Et il y a cet autre verset qui nous dit dans l'Apocalypse que le Seigneur, Jésus, Dieu, se tient à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On retrouve la même image de ce souper, de ce repas, de cette communion, parce que c'est l'image de la table. En France, on aime bien parler de table, parce qu'en France, on aime bien bien manger. Hein? Pas vrai, les jeunes ? Bien manger à midi, ça va ? Et c'est vrai, en France, on est attaché à ça, à s'arrêter, à prendre le temps de bien manger. C'est parce qu'on sait que c'est un lieu où on se fait du bien, c'est un lieu de partage. Et c'est vraiment l'image que le Seigneur nous montre dans sa parole. Mais pour nous, c'est l'image qu'il nous donne pour nous donner de réaliser ce qu'il veut pour nous. Hein, cette communion vivante, ce partage, mais de chaque jour. Ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, ce qu'il veut pour nous, c'est une relation. Ce n'est pas que nous soyons attachés à des traditions d'hommes, hein, venir à l'église une fois par semaine, ou venir à l'église deux, trois fois par an. Non, ce qu'il veut, c'est vraiment une relation vivante, parce qu'il est vivant, il est le Dieu vivant et vrai, et il nous appelle chaque jour à pouvoir justement nous approcher de lui. C'est la grâce qu'il veut nous donner de pouvoir expérimenter, être assis devant lui, être en communion avec lui, partager avec lui. C'est sa grâce, c'est vraiment sa grâce, on ne le mérite pas. Personne ne mérite quoi que ce soit de toute manière. On ne le mérite pas, mais Dieu veut nous accorder sa grâce. Et j'aimerais voir, pour aller un peu plus loin, justement, pour voir dans la Bible l'expérience aussi d'un homme qui a vraiment littéralement expérimenté ce psaume que nous avons lu. J'aimerais voir avec vous ce passage qui est dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4. On commence, on va faire ce premier verset, on ira après dans le chapitre 9, 2 Samuel chapitre 4, verset 4. On voit dans ce verset, « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsque arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. » J'aimerais qu'on aille ensemble dans le même livre, au chapitre 9, quelques pages après. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. Alors nous voyons donc l'expérience de cet homme, Méphibosheth. Méphibosheth est un personnage un peu particulier, étrange, avec un nom un peu compliqué. Hein, vous avouerez, Méphibosheth, ce n'est pas évident à écrire, mais en plus de ça, c'est quand même assez difficile à porter. Je ne sais pas si c'est un nom que vous donneriez à votre enfant, à votre fils, parce que la signification de ce nom, hein, quand on regarde, Boschette, dans Méphibosheth, signifie la honte. Dès son enfance, hein, c'est ce qui a marqué Méphibosheth. Dès son enfance, on le voit porter la honte comme un vêtement. À l'âge de 5 ans, nous l'avons lu ensemble dans ce chapitre 4, hein, nous le voyons pris par sa nourrice, après la suite d'avoir appris la mort de son père Jonathan et de son grand-père Saül. Et dans cette fuite, sa nourrice l'a laissé tomber. Et c'est ainsi que Méphibosheth a été perclus des deux pieds, c'est ainsi qu'il a eu cet handicap irréversible. C'est ce qui a marqué sa vie par la suite, c'est ce qui a marqué sa croissance, c'est ce qui a marqué ses années par la suite. C'est ce qui nous donne de comprendre vraiment le contexte dans lequel vivait Méphibosheth, sa situation, sa souffrance, sa misère, son état, sa condition. Et plus que cet handicap, on le voit par la suite donc être amené à Lodébar. À Lodébar, c'est pas non plus un nom très gai, parce que Lodébar signifie pas de pâturage, pas de pâture. Donc, voyons que Méphibosheth, après cet accident qui a vraiment marqué profondément sa vie, va se retrouver dans un lieu désert, obscur, aride. C'était là la situation, c'était là le contexte de la vie de Méphibosheth. Mais Méphibosheth n'était pas oublié. Méphibosheth n'était pas oublié. J'aimerais te dire cet après-midi que tu n'es pas oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Et Dieu ne t'a pas oublié. Et quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu peux passer aujourd'hui, mais par lesquelles tu as pu passer dans le passé, quelles que soient les souffrances que tu as pu endurer, Dieu ne t'a pas oublié. De la même manière que David n'avait pas oublié cette alliance qu'il avait faite avec Jonathan, cet engagement. David s'était engagé. À un moment donné, on voit que David s'était engagé à prendre soin de la famille de Jonathan et de Saül. On voit cette conversation entre Saül et David dans 1 Samuel 24-20 où Saül va dire à David, « Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. David était un homme de parole et il s'était engagé, c'était quelqu'un de droit qui craignait Dieu. David craignait Dieu dans le sens il respectait Dieu. Et parce qu'il s'était engagé, il voulait honorer cet engagement. Et c'est ainsi qu'on voit au chapitre 9 cette situation où nous voyons David poser cette question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» C'était par rapport à cet engagement. David pose cette question, reste-t-il quelqu'un ? David ne dit pas, reste-t-il quelqu'un de digne, de qualifié, qui soit honorable, qui ait un rang, qui ait une bonne situation, qui soit, qui ait des capacités ? Non, David dit simplement, reste-t-il quelqu'un ? Un survivant de la famille de Saül ? Y a-t-il quelqu'un nous donne de comprendre que c'était qui que ce soit, qui que ce soit. David dit en d'autres termes, je ne demande pas à ce qu'il soit dans de telle ou telle disposition, je ne demande pas à ce qu'il ait les meilleures intentions du monde. Il pose cette question, reste-t-il quelqu'un ? Et cet après-midi, Dieu pose cette question. Reste-t-il quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un cet après-midi ? quelle que soit sa condition, quel que soit son passé, je le redis, quelles que soient les circonstances de sa vie, reste-t-il quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui veut s'approcher de l'Éternel, qui veut s'approcher de Dieu pour être béni, parce que c'était là la volonté de David, de bénir, de faire du bien à cette personne qui resterait. On voit que le but de David était de manifester, il le dit lui-même, la bonté de Dieu. Et dans ce verset, quand il est dit « pour que je lui fasse du bien », quand on regarde vraiment la signification de ce mot dans les textes originaux, ce mot est vraiment très riche. En français, ce mot ne peut pas être décrit entièrement, pleinement, tout ce que cela décrit, le mot qui est employé là, dans le texte hébreu. Ce mot parle de grâce, de miséricorde, de bienveillance, de bonté, d'amour, d'attachement, de faveur, d'affection, de tendresse, d'une communion profonde, etc. On pourrait continuer, je vais m'arrêter là, mais c'est ce qui nous montre les dispositions qui étaient là dans le cœur de David à l'égard de cette personne. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous montre les dispositions qui sont dans le cœur de Dieu à l'égard de chacun de nous. Je ne sais pas comment tu perçois Dieu et comment tu perçois son attitude à ton égard. Mais la Bible nous montre que Dieu est un Dieu de grâce. Oui, qui fait grâce, qui nous accorde ce que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce, c'est une faveur imméritée. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu de miséricorde, qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Et c'est vraiment là l'attitude de Dieu, encore pour nous aujourd'hui, et pour toi qui es là cet après-midi. Dieu est ce Dieu qui veut te donner de recevoir sa bonté, son amour, sa faveur, son affection, sa tendresse, d'entrer dans cette communion profonde, comme on le voit dans ce mot qui était là, pour montrer l'attitude que David avait et qu'il voulait avoir envers cette personne. David montre vraiment cette attitude qui est dans le cœur de Dieu, un amour inconditionnel. C'est là l'amour de Dieu pour ta vie cet après-midi. Il y a dans le cœur de Dieu un amour inconditionnel. Les hommes sont bien souvent n'aiment pas de cette manière-là. On est un amour d'une manière intéressée. C'est, je t'aime si tu me fais du bien. Je t'aime si tout se passe bien. C'est comme cela que l'homme souvent aime. Mais ce n'est pas là l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans condition. Et cet après-midi, il t'appelle justement par son amour à venir à lui. Et de la même manière que David a envoyé chercher donc cet homme, ce Mephibosheth, de la même manière, c'est Dieu qui vient te chercher. Parce que le véritable amour ne se limite pas à des mots. Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers chacun de nous. Dieu prouve son amour, la Bible nous dit, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous dit que Dieu est venu jusqu'à nous, qu'il n'a pas envoyé un homme, qu'il est venu lui-même jusqu'à nous, qu'il s'est fait homme et qu'il a marché sur cette terre, oui, comme un simple homme, et non pas pour se faire servir, mais pour servir. Et qu'il a marché sur cette terre pour venir nous secourir, pour venir nous bénir, pour délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Et pour cela, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il a tout accepté, les souffrances, les humiliations, être rejeté. On lui a craché dessus, on l'a méprisé, on s'est moqué de lui. Dieu a tout accepté. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils sur cette terre pour nous sauver. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix pour chacun de nous, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et voilà la grâce de Dieu pour toi cet après-midi. Et il t'appelle, de la même manière que David a appelé Mephibosheth à venir, il t'appelle cet après-midi à venir à lui, à venir devant lui. Et on voit quand même un détail qui est important, j'insisterai là-dessus, en disant que c'est ce qui nous montre encore vraiment là la bonté de Dieu, c'est que on voit encore ce serviteur qui a répondu à la question de David, reste-t-il encore quelqu'un? Il lui a dit, bien, il reste un homme, un fils de Jonathan, perclus des pieds. Alors, on voit que cet homme, ce serviteur de la maison de Saül, a insisté sur ce détail. Comme s'il disait peut-être à Jonathan d'une autre manière, tu vas vite le repérer, il est boiteux. Tu vas vite le repérer, il a ce lourd handicap. Peut-être que c'était comme un conseil déguisé pour lui dire, mais il n'aura pas sa place dans ton entourage, auprès de toi, à ta table. Il va faire tâche, va faire dépareiller. Très certainement que Tsiba devait se poser cette question, mais pourquoi David s'intéressait-il à cet homme qu'il restait? Et voyons que la réponse de David après a été très simple. Où est-il? Où est-il? David n'a pas cherché à faire une enquête, à demander comment a-t-il fait pour en arriver jusque-là, quelles sont ses erreurs, quels sont son parcours, quelle est la lourdeur de cet handicap. Non, il a pas cherché à faire tout un interrogatoire, et il l'a envoyé chercher. C'est ce qui nous montre encore une fois de plus que la grâce de Dieu ne nous impose pas de conditions sur l'état dans lequel nous pouvions être dans le passé. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est simplement de croire. C'est simplement de nous approcher de lui. C'est simplement de reconnaître son œuvre pour chacun de nous, de l'accepter, de reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et de placer toute notre foi en lui. C'est simplement cela que Dieu nous demande cet après-midi pour saisir son secours, pour saisir sa grâce, pour être restauré, être béni. Ce à quoi Dieu t'appelle cet après-midi, c'est simplement à te tourner vers lui, à te repentir, à lui demander pardon pour tous tes péchés, et c'est ce qui te donnera vraiment de faire la même expérience que Méphibosheth. Méphibosheth était très loin de s'imaginer ce qu'il attendait. Quand ce serviteur qui est venu le chercher lui a dit « Le roi t'appelle », très certainement que David s'imaginait l'opposé de ce qui allait se passer. Très certainement que pour David, que pour Méphibosheth, il devait penser, mais bon, ben, c'est terminé pour moi, c'est fini. Parce que vous savez, les traditions orientales à l'époque faisaient que, eh bien, quand il y avait un nouveau roi, souvent, eh bien, toute la dynastie passée était exécutée. Et très certainement que c'était là la pensée de Méphibosheth, c'était le dernier de la maison de Saül. Il se disait, ben pour moi c'est fini, c'est la mort. C'était très certainement la pensée vraiment profonde qu'il devait avoir dans son cœur en arrivant dans la maison du roi. Vous savez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la condamnation que nous aurions dû avoir, que nous devrions avoir. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Pas seulement une mort physique, mais une mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Mais ce verset suit et nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est vraiment l'expérience qu'a faite Méphibosheth en se retrouvant devant David, alors qu'il pensait que, eh bien, il allait avoir cette condamnation et l'épée certainement qui allait traverser son corps d'un moment à un autre. Il a entendu cette parole : ne crains point, car je veux te faire du bien. Ne crains point. Cet après-midi, de la même manière, ne crains point de t'approcher de l'Éternel, car il veut te faire du bien. Ne crains point de t'approcher de Jésus-Christ. Ne crains point de t'approcher de la croix. Car Dieu veut vraiment manifester sa bonté envers toi. Amen. J'aimerais qu'on prie un instant. Et vraiment cet après-midi, qu'on puisse ne pas se priver de la grâce de Dieu. Oui, j'aimerais vraiment qu'on prenne encore un temps de prière pour se tenir devant Dieu et s'approcher de lui. Moi, personnellement, je ne connais pas les situations par lesquelles vous pouvez passer. Mais Dieu sait, et Dieu connaît toutes choses, et il connaît l'état de vos cœurs. Voyons vraiment l'état du cœur de Méphibosheth avant de faire cette expérience merveilleuse. Il se considérait comme un chien mort. C'était là ses pensées, c'était là ce qu'il pensait de lui. C'est ce qui nous montre vraiment cet état qu'il reconnaissait dans sa vie de misère. Mais nous l'avons lu. Dieu est celui qui relève le pauvre de la poussière, du fumier, l'indigent. Et c'est la réalité pour nous encore aujourd'hui. Et quel que soit ton passé, je le rappelle, l'amour de Dieu est inconditionnel. Et cet après-midi, il y a cet amour qui t'appelle à venir à la croix, à venir devant lui, à t'abandonner, à abandonner ta vie entre ses mains, afin de saisir sa grâce, afin de vraiment expérimenter ce changement, cette transformation de vie. Méphibosheth, par la suite, a pu vivre une transformation de vie complète, littérale, et il a pu se retrouver tous les jours à la table du roi, et il a pu être traité comme un des fils du roi. C'est là vraiment la grâce de Dieu. C'est là vraiment ce qu'il veut te donner de vivre, d'expérimenter dans ta vie. Être tous les jours à sa table. Traité, oui, comme son fils unique. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps de prière. Et dans ce temps, je vous inviterai vraiment à faire ce pas de foi. À vous approcher du Seigneur, à vous repentir. Et à saisir la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette bonne nouvelle. Nous te bénissons pour les dispositions qui sont dans ton cœur. Nous te bénissons parce que tu n'es pas ce Dieu dur, méchant, prêt à punir, mais tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu, Seigneur, de grâce. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui a compassion, qui a pitié de toutes nos ruines. Tu es celui, Seigneur, qui relève. Et encore aujourd'hui, tu es celui qui sauve, qui délivre. Encore aujourd'hui, tu es celui qui nous donne de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés et être transformé, être changé, entrer dans une nouvelle vie. Une vie faite de grâce, de bénédiction, une vie faite d'abondance. Seigneur, tu vois les cœurs cet après-midi et je te prie d'étendre ta main sur tous ceux, Seigneur, qui peuvent être dans cette pauvreté, dans cette misère, loin de toi, dans le fumier, dans la poussière, dans la boue du péché. Seigneur, tu es celui qui nous tend la main encore cet après-midi. Je te prie, Seigneur, vraiment d'encore agir dans les cœurs afin que chacun cet après-midi ne se prive pas de ta grâce, mais saisisse ta main afin d'être retiré, afin d'être lavé, afin d'être purifié et transformé. Oui, encore, Seigneur, dans ces moments, agis, Seigneur, parce que tu es toujours le même et tu n'as pas changé. C'est ce que tu veux faire. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Amen.